Roman, BD, documentaire, livre pour enfants ou guide de voyage, c'est qui ou quoi sur Radio Duo, une demi-heure pour vous parler de livres à lire tout à l'heure avant d'aller se coucher, ou demain à n'importe quelle heure de la journée. Bienvenue ce soir dans la cinquième édition de la saison 3 de Qui ou quoi. Alors ce soir, c'est pas dur, je vous raconte ma vie, mon enfance et ses traumatismes, ce que je pense de l'achat en ligne quand on vit dans une ville de 5000 habitants de l'Allier. Bref, ce soir, ça balance. Plus concrètement, et vous le comprendrez au cours de l'émission, je vais vous parler d'un manifeste anti-Amazon, et puis je vais vous faire un vibrant hommage à un scénariste de BD qui m'a beaucoup marqué et qui est décédé il y a pas longtemps. Donc, contre Amazon et Soda, dans Qui ou quoi, c'est ce soir. Et c'est parti. Le premier livre dont je vais vous parler ce soir est en fait un tout petit livre. C'est d'ailleurs pas vraiment un livre vu que c'est un manifeste, c'est écrit sur la couverture. C'est court et engagé et ça s'appelle Contre Amazon de Jorge Carrión. Pour vous le décrire, ce petit livre, en fait, il est à peine plus large qu'un livre de poche. Il n'est pas broché, il est juste agrafé, et on dirait presque en fait un programme d'une SMAC ou d'un centre culturel, sauf que le papier, il est même pas glacé, et qu'il est même plutôt moins épais. Bref, le livre fait 31 pages, la couverture, elle, est très graphique, et tout le livre d'ailleurs est très graphique. Il est imprimé sur du papier bleu, clair, et toutes les écritures sont en bleu foncé. Sur le papier, c'est un papier Bristol, donc comme j'ai dit, un peu épais. Je vais essayer de vous décrire un peu la couverture. En fait, sur la couverture, il y a écrit le titre du livre, mais c'est dans une police de caractère qui va en s'agrandissant vers l'extérieur, surplombé par le nom de l'auteur, donc Jorge Carrión, et sous-titré, donc c'est écrit contre Amazon, sous-titré « Un manifeste, cette raison ». Et puis pour finir sur la couverture, bien sûr, il y a l'éditeur, le Nouvel Attila. Donc, peut-être que vous l'avez compris si vous écoutez l'émission depuis le début, Contre Amazon de Jorge Carrión va nous parler d'Amazon et de pourquoi il faudrait être contre. Alors, pourquoi j'ai décidé de vous parler de ce livre ? C'est tout simple, c'est parce que, en tant qu'amoureux des livres, je me pose énormément de questions vis-à-vis d'Amazon. Comme beaucoup de monde dans mon entourage, je conchis Amazon et ses effets néfastes. Mais ça m'empêche pas d'avoir un compte Amazon et d'avoir déjà acheté des trucs sur Amazon. Des disques, des jeux de société, des DVD, mais pas de livres. Ou alors je m'en souviens pas, ou plutôt je m'en souviens plus parce que je l'assume pas. Bref, je conchis Amazon avec son mode de distribution, son modèle de travail, etc. et tout ce que ça a comme conséquence sur la chaîne du livre. Et pourtant, il n'y a pas si longtemps, j'ai été interpellé par des amis qui vivent à la campagne, bon, pas non plus la plus reculée qui soit, on va dire genre l'Allier quoi, comme j'ai dit en intro, et concrètement, eux, leur discours c'était que sans Amazon, leur accès aux livres était plus que compliqué, voire impossible. Pareil pour quelqu'un qui habiterait, je sais pas, au hasard dans le Queyras, cette vallée reculée des Hautes-Alpes. Un bon esprit chagrin face à de telles personnes pourrait leur rétorquer qu'il y a des alternatives à Amazon, genre le site chez mon libraire par exemple, mais il faut payer les frais de port et on pourrait partir pendant de longues heures de débat. Toujours est-il que je sais qu'Amazon c'est le mal absolu, mais en vrai j'ai pas vraiment d'arguments. Eh bien ce livre, c'est la fête aux arguments. Contre Amazon, en 7 doubles pages, je pense qu'il peut arriver à au moins semer le doute dans l'esprit de quelqu'un qui n'a pas forcément d'avis sur la question, ou de quelqu'un qui sait que c'est pas bien d'aller sur Amazon, mais qui le fait quand même. Je pense malheureusement que les fanatiques d'Amazon, eux, sont des peines perdues. Donc ce livre contre Amazon déroule en 7 raisons pourquoi il faudrait être contre Amazon, comme dans le titre. Je vais pas les détailler ici parce que en fait c'est pas vraiment le propos et puis je vais pas m'approprier non plus tout ce que dit Jorge Carrión. Ce serait donc un peu long, mais ce serait pas chiant parce que c'est intéressant et très très bien fichu, très bien tourné. En gros, ça passe, donc il y a 7 cet argument, ça va de l'acte d'acheter un livre qui est différent si on est dans une librairie ou si on est devant son ordinateur, à ce que peut laisser présager le futur, un futur où la médiation humaine est remplacée par des algorithmes. Au tout départ, ce texte de Carrión est un texte qu'il a écrit pour un magazine. Mais comme en fait il était tellement bien tourné, il y a eu une espèce d'effet de boule de neige et le livre s'est passé de main en main. Il a d'abord été édité, puis il s'est retrouvé dans les librairies espagnoles. Un anglais est passé par là, il a voulu s'être emparé du truc, ils l'ont édité en anglais. Le libraire anglais l'a mis dans sa librairie, etc. jusqu'à ce qu'il soit aujourd'hui édité en français par le Nouvel Attila. Pour vous situer un peu l'auteur, Jorge Carrión, c'est un professeur espagnol qui est spécialiste des librairies. Il a fait un autre ouvrage sur les librairies spécifiques qui est édité en français. Donc il sait vraiment de quoi il parle et pour le coup, l'argumentation est rondement menée. Chaque point abordé est particulièrement éclairant et permet vraiment de se faire son opinion. Après, bien sûr, hein, libre à chacun d'en faire ce qu'il veut. Donc ce livre, pour autant qu'il soit court, bleu et bien fichu, il y a quand même quelques bémols à y apporter, qui nous apparaissent une fois qu'on a fini sa lecture. Déjà le premier, c'est qui va acheter un livre pareil, même s'il est pas cher, ça coûte 3 euros, qui va acheter un manifeste contre Amazon, quoi. On est plus dans le geste éditorial engagé qu'autre chose. Parce que à part les concernés, donc les éditeurs un tout petit peu, les libraires beaucoup, c'est un peu compliqué pour quelqu'un, à part peut-être un lecteur qui voudra soutenir sa librairie et qui voudra acheter ce livre-là, mais autant acheter d'autres livres qui soient plus conséquents. En plus, surtout, il n'est trouvable et mis en avant que dans les librairies, qui elles se battent déjà contre Amazon. Et donc on a là un premier mur en fait, parce que si pour trouver le livre il faut déjà aller dans une librairie, c'est que on n'est déjà pas allé sur Amazon. Donc et la personne qui va aller dans la librairie justement, elle est plutôt sensible à l'opposition contre Amazon. Bref, ça peut éventuellement toucher quelqu'un, mais qui est déjà sensibilisé. Donc au final, même si le livre est bien, on tourne en circuit fermé. En gros, une fois que le manifeste est posé, et c'est important qu'il soit posé, eh ben, il va donc falloir faire face à la question « Comment vraiment toucher les gens pour calmer cette folie autour d'Amazon ?» Et ça, on n'est pas prêt d'y répondre tout de suite, surtout vu le succès d'Amazon aujourd'hui. Alors, j'ai bien un début d'embryon de réponse. Qui passe par les bibliothèques, parce que d'ailleurs c'est là où j'ai découvert ce livre, dans une bibliothèque. Les bibliothèques qui, elles, justement, entre libraires et Amazon, elles peuvent rester neutres et proposer les livres sans pour autant que les gens l'achètent, sans pour autant que des gens soient spécialement aient une position vis-à-vis de la librairie, etc. Et elles ont un rôle à jouer pour faire avancer le débat, pour le coup. Au moins, au niveau de la preuve de la prise de conscience et de la visibilité, elles ont vraiment, vraiment leur place. Bien sûr, il faudrait que les bibliothèques s'emparent vraiment du sujet pour proposer quelque chose de fort que juste un manifeste dans un coin. Mais bon, ça peut être un début et tout peut arriver. Bref, Contre Amazon de Jorge Carrión, c'est un petit livre qui m'a, moi, bien fait réfléchir et qui risque de continuer à me faire réfléchir. En fait, en préparant l'émission, il m'a même donné envie d'essayer d'en faire un peu une table ronde à la radio. Donc, si ça vous intéresse, si vous avez envie de venir parler de ça avec moi autour du micro dans une émission qui serait peut-être un petit peu plus longue, eh ben, ça pourrait être super classe. Affaire à suivre. Je vais finir là-dessus. En fait, le comble du cynisme autour de ce livre, c'est qu'en fait, quand on tape « contre Amazon » dans la barre de Google, ou même « contra Amazon » dans Google, toujours, eh ben, le premier lien qui apparaît, c'est le lien pour acheter le livre sur Amazon. Amazon, ils en ont tellement rien à foutre que, et Google complice bien évidemment, et que la première chose qui apparaît, c'est le lien pour Amazon et pas le lien contre Amazon. Bref, tout ça est assez déprimant. Mais je veux, si vous le pouvez, et faites tout pour, lisez Contre Amazon pour venir en parler.
Thank you.
c'était La Marche des mendiants d'Ennio Morricone sur la BO d'Il était une fois dans la révolution. Il était une fois la révolution. On est de retour sur Radio Dio dans Qui ou quoi, l'émission bimensuelle qui vous parle de bouquins sur le 895. Le 5 octobre dernier, le 5 octobre 2019, est mort Philippe Thom. Alors, pour les non-initiés, c'était le scénariste du petit Spirou, d'une grosse partie du Spirou et Fantasio, donc Spirou grand, de BD comme Soda, de Berceuse assassine, et donc pour les initiés, eh ben c'est le scénariste du petit Spirou, d'une bonne partie de Spirou et Fantasio, donc de Spirou grand, de Soda, de Berceuse assassine, et même d'autres encore. Bref, quasiment rien à jeter, j'exagère peut-être un peu, mais on n'en a pas tant parlé que ça, et pour moi, un grand de la BD est mort, et j'ai voulu vous en parler ce soir. Je me souviens très bien de mes 8 ans, parce que ce jour-là, mes parents avaient décidé de m'acheter Spirou Magazine. Je me souviens encore très bien des BD qu'il y avait dans ce numéro fondateur. Il y avait le tome 1 de la BD Broussaille, de Franck et Baum, dont je parlerai forcément un jour à cette antenne. Et puis aussi, il y avait un Spirou qui avait déjà commencé, c'était L'Horloger de la Comète, donc par Thom et Jean-Ry. Alors je me trompe sûrement, hein, je ne suis pas vraiment allé vérifier précisément, à part le fait que j'avais 8 ans à cette époque-là. Il faut savoir qu'avant donc, ce premier numéro de Spirou, moi j'avais été biberonné au Spirou de Franquin. Donc c'était un peu un sacrilège que d'aimer ce Spirou-là parce que rien n'arrive à la cheville de Franquin. Mais en vrai, ce Spirou par Thom et Jean-Ry, eh ben je l'adorais. Et puis surtout, après ce numéro, j'ai été abonné pendant plus de 10 ans à ce magazine et j'ai donc continué à grandir avec Philippe Thom, avec un petit peu aussi Jean-Ry. Mais donc j'ai lu tous les Spirou et Fantasio de Thom et Jean-Ry, j'ai vécu en direct l'arrivée du petit Spirou, qui avant n'existait pas. Et puis j'ai pris des grosses claques avec des trucs ben, justement comme Soda. Et Soda, c'est ce dont je vais vous parler ce soir. Parce que justement, après Broussaille et Spirou, et ben pas loin derrière, il y a Soda dans les trucs qui m'ont marqué. Il y a aussi Jérôme K, Jérôme Bloch, Que Garatsu, Les Tuniques Bleues, bien d'autres encore, mais quand même, le haut du panier au final, de trucs qui m'ont marqué quand je lisais mon Spirou magazine que j'étais petit, et ben le haut du panier porte la marque de Philippe Thom. Je vais vous faire une biographie... Enfin non, justement, je ne vais pas vous faire une biographie, c'est pour la biographie de ce monsieur. Je me permets de vous renvoyer au numéro 6 au numéro du 6 novembre de Spirou de cette année, qui rend justement hommage à Thom. C'est ce numéro que j'ai lu il n'y a pas longtemps et qui m'a fait prendre conscience de l'importance des BD de Thom dans mon parcours de lecteur. On y apprend comment il est devenu scénariste, comment il a rencontré Jean-Ry, comment ils en sont venus tous les deux à dessiner Spirou et Fantasio, et plein d'autres infos super intéressantes. C'est synthétique, mais c'est vraiment parfait, et résultat, je vous parle de Thom ce soir, et surtout de Soda. Alors, Soda, c'est donc une série scénarisée par Thom, ça sera la 50e fois que je le dirai, mais c'est le même scénariste qui a vu se succéder trois dessinateurs différents. Warnant, Gazotti, le Gazotti c'est le futur dessinateur des Seuls, une autre grande BD pour enfants, mais pas que, et Dan Verlinden sur la fin. Soda, ça raconte l'histoire d'un lieutenant de police, le lieutenant Soda, qui vit avec sa mère cardiaque, qui ne sort jamais de chez elle et qui doit éviter absolument toute forme de stress. Donc, pour ne pas lui faire de soucis, Soda décide de lui faire croire qu'il est pasteur, un métier plus que calme, alors qu'en fait, dès qu'il sort de l'appartement, il se change dans l'ascenseur pour être un inspecteur hyper badass de New York. Commencée en 1985, la série Soda a en fait été l'occasion pour Philippe Thom de s'aventurer un peu plus loin que les habituelles aventures de Spirou et Fantasio, qui mêlent aventure et humour dans un cadre qui était quand même plutôt défini. Avec Soda, en fait, Thom voulait se frotter au polar et aux USA qu'il fascinait. Et c'est ce qu'il va réussir à faire avec brio. Apparemment, toujours d'après ce numéro du 6 novembre de Spirou, il va proposer à Jean-Henri, son complice, de dessiner Soda, mais celui-ci va refuser, et finalement ce sera Warnan qui va dessiner les deux premiers tomes, dans une veine, au niveau du dessin, quand même assez similaire à celle de Jean-Henri. Pour essayer de vous donner le ton en fait de cette série, je vais vous raconter rapidement les premiers tomes. Dans le premier tome, en fait, Soda va poursuivre une femme qui est censée être la pire criminelle, la plus violente de New York, mais en fait, les apparences ne sont pas ce qu'elles sont, et je vais le spoiler, mais elle va mourir dans les bras de Soda. Dans le second tome, on a affaire à une sombre histoire de machine à écrire hantée dans un New York sale et violent, que découvre un Soda juste arrivé de sa campagne dans un épisode qui est en fait une espèce de gros flashback. Le tout sombre et poisseux. Et en fait, ces deux tomes vont vraiment donner le ton pour tous les autres épisodes de la série qui en compte 12 et qui vont tous creuser ce sillon. Avant d'être complètement dithyrambique, je vais quand même commencer par le petit bémol que je mettrai autour de cette série de Soda. En fait, les auteurs sont extrêmement contraints par le format 48cc, c'est-à-dire 48 pages cartonnées avec une couverture que leur impose l'éditeur Dupuis et le fait que ça apparaisse dans un magazine jeunesse, le créneau sur lequel ils sont en fait. Ce qui fait que parfois, en fait, le scénario s'accélère là où justement au moment où justement on pense qu'il ne devrait pas s'accélérer parce que justement les auteurs ont mis du temps, ils ont pris leur temps pour installer une ambiance bien polar, bien hard-boiled, bien crade. Mais bon, en final, cette petite accélération pour finir, parce qu'il faut finir, il n'y a que 48 pages, passer ce détail, la série en fait elle est juste hallucinante. En fait, c'est vraiment en se lisant ce fameux numéro spécial de Spirou que tout m'est revenu. Parmi les dessins hommages qu'il y a dedans, il y a un auteur qui évoque la scène dans laquelle la, entre guillemets, méchante du premier tome meurt dans les bras de Soda. Et en lisant cet hommage, que ça m'est revenu, ça m'avait effectivement beaucoup marqué. La machine écrire hantée du tome 2 aussi d'ailleurs. J'ai donc, en prévision de tout ça, relu toute la série. Et là, en fait, j'ai vraiment halluciné. Il y avait plein de trucs que j'avais oubliés. Alors bien sûr, quand on relit tout ça, c'est commencé en 85, ça fait quand même bien presque 30 ans. Enfin, bien 30 ans. La BD a un peu vieilli, surtout au niveau du dessin. Mais bon, en même temps, elle est largement bien plus personnelle que n'importe quelle des BD formatées d'aujourd'hui. Et puis surtout, les thématiques abordées sont complètement folles. Tom, en fait, se permet tout. Soda, il couche avec des prostituées. Dans un des tomes, il y a un des tomes qui commence où, en fait, il abat un jeune de 18 ans. Il y a un autre où, en fait, il se retrouve dans une communauté de prêtres qui se retrouve obligé à tuer d'autres personnes. Il y a de la corruption de partout, tout est extrêmement noir. Et c'est vraiment, vraiment glauque. Le tout, bien sûr, sous des dehors de BD bien gentils qui paraissent dans Spirou. J'avais juste 8 ans et Soda couchait avec sa collègue de travail dans une voiture décapotable juste avant de tuer le méchant, sans autre forme de procès, alors qu'il n'était pas obligé, quoi. En fait, dans tous ces épisodes, il y a de la charge anticléricale, il y a de la charge anticapitaliste, il y a de la violence à tous les étages. Et en fait, c'est juste hallucinant. Pour vous dire le petit détail qui tue, c'est que Soda, contrairement à Lucky Luke, lui, sur tous les tomes, il a continué de fumer, encore aujourd'hui. En fait, Soda n'en a rien à foutre de la loi Evin. En gros, bref, c'est vraiment le polar en mode badass qui défonce tout sur son passage à coups de multiples niveaux de lecture. Franchement, pour une BD qui s'adresse à des moins de 10 ans, je crois qu'on n'a jamais fait mieux. Au final, quand je relis tout ça, je découvre donc à quel point ça a pu être important pour moi. et surtout à quel point c'est un ovni. Je ne trouve pas d'équivalent aujourd'hui, comme si ce n'était plus possible aujourd'hui de faire un truc aussi transgressif. Il y a peut-être un peu la BD seule qui pourrait jouer sur ce créneau, mais c'est franchement pas aussi frontal, et franchement c'est moins politique. En tout cas, je pense pas que ce soit la période qui empêche de faire paraître des trucs comme ça, parce qu'il y a quand même des trucs qui pourraient vraiment, qui présentaient un peu les prémices vraiment, mais vraiment à un tout petit niveau. C'est juste que, en fait, c'est pas la période qui l'empêche, mais c'est juste que je pense qu'il n'y a plus de scénariste de la trempe de Philippe Thom, et ça c'est triste. Bon, alors bien sûr, il n'est plus là et il n'y aura plus de nouveaux tomes de Soda, il n'y aura plus de nouveaux tomes de Spirou, mais comme je vous dis, hein, il nous reste quand même ces BD à lire et à relire. Soda est excellent, les Spirou sont également des trésors de multiples niveaux de lecture, le petit Spirou est toujours aussi drôle, un cran en dessous de Titeuf, mais quand même pas très très loin, et puis il y a d'autres BD, plus pour adultes, Les Berceuses Assassines ou Sur la route de Selma, qui sont carrément des polars pour adultes, bref, que du bon. N'hésitez pas à les lire et à les relire, tout est trouvable facilement, et vous ne m'en direz que du bien. C'était le groupe Run C&W avec le morceau Reach Out, I'll Be There. On est de retour pour la toute dernière partie de Qui ou Quoi, l'émission bimensuelle qui vous parle de livres sur le 895. En fait, c'est quasiment la fin de l'émission, normalement c'est une demi-heure, là ça fait pile poil 30 minutes. Je voulais garder un petit temps sur cette fin d'émission pour vous parler d'autres livres, donc j'ai pas eu le temps de vous faire une chronique plus complète, des trucs dont, qui sont sortis il y a plus ou moins longtemps, enfin qui sont arrivés sur mon radar de lecture, dont je vous parlerai peut-être plus tard, mais en attendant... je vous en parle là maintenant, enfin je les évoque avec vous. J'ai découvert il y a pas longtemps un éditeur qui s'appelle Terran, ou Terran, je sais pas comment on dit, qui fait en fait des livres pratiques sur le jardin, la nature, et en fait ils ont fait toute une petite série de livres là qui sont vachement intéressants, peut-être pourquoi pas une belle idée cadeau, j'en sais rien, pour Noël, on verra bien. De toute façon on aura le temps peut-être de reparler de tous ces trucs là, à voir si je fais pas une émission spéciale cadeau de Noël, mais ça m'étonnerait. Donc ils ont sorti des trucs comme l'urine de l'or liquide au jardin, qui parle en fait de fait que faire pipi dans son jardin ça fait du bien aux plantes. Il y a la micro-ferme agroécologique, celui-là je suis à peu près sûr de vous en parler, mais il faut trouver, que je trouve le temps de vous le lire, qui lui évoque comment faire un jardin bio. En fait c'est un jardin bio mais à un niveau un peu plus élevé que juste dans son jardin. Il y a la guide de vie et survie en forêt, etc., etc. Bon, on va en reparler bientôt. Je voulais aussi évoquer avec vous, ça fait trois émissions que je l'évoque, il y a Gonzaï qui a lancé sa campagne de réabonnement pour l'année 2020 et ils ont vraiment du mal à décoller. C'est plus que pas forcément gagné, mais bon, je vous encourage, Gonzaï c'est vraiment bien comme alternative à plein de magazines de musique type tout pourri, genre les Inrock, oups, je l'ai dit. Mais bon, donc Gonzaï c'est vachement bien et là ils sont en train de lancer leur campagne de réabonnement, n'hésitez pas, ça fait des belles idées cadeaux. Il y a aussi un autre magazine, donc là le premier numéro n'est pas sorti, juste je suis très curieux. Dans une émission précédente, je vous avais évoqué un magazine qui s'appelle Atom. J'avais parlé d'un magazine qui s'appelle Atom, qui est un magazine de manga. Et en fait, l'équipe d'Atom, en bon féru de Japon, sort un magazine qui s'appelle Tempura, qui parlera plus de société japonaise, donc sous plusieurs angles, mais vraiment que Japon, quoi. Apparemment, ça va parler de cuisine, de société, enfin de vie quotidienne, etc. Ça a l'air assez rigolo. Donc là, même si moi je ne l'ai pas lu, en tout cas, ça excite ma curiosité. Ensuite, ben, comme d'habitude, hein, l'émission Mauvais Genre à la radio... sur France Culture, notre petit concurrent, nous donne toujours envie de lire des bons livres. Et là, il y a un monsieur qui s'appelle Louis Mans qui est paru à la Pléiade. Je n'avais jamais entendu parler de ce monsieur à part dans une interview du groupe de hardcore Kickback. Mais en tout cas, là maintenant, ils m'ont bien donné envie de le lire. Alors d'ici ce que j'ai lu toute la Pléiade et que je vous en reparle ici, il y aura un petit moment, mais sait-on jamais. En tout cas, tentez le coup. Et puis, je vais finir sur le dernier tome de la trilogie du Mississippi. J'avais parlé de du premier tome il y a très longtemps, je crois que c'était au tout début de l'année dernière, qui est un polar de la trilogie du Mississippi. Ce sont des polars de Greg Iles chez Actes Sud. Il y a le premier, c'était Brasier Noir, c'est celui dont je vous avais parlé. Le deuxième, L'Arbre aux Morts. Et là vient de sortir le troisième, Le Sang du Mississippi. La trilogie est complète. N'hésitez pas à vous ruer dessus. Et donc, bah, je vais finir sur le fait qu'il faut lire et relire toutes les BD de Tom et Jean-Ry. Je vous ai parlé d'elles tout à l'heure, mais il y a tous les Spirou qu'ils ont fait. Il y a tout le petit Spirou, il y a la berceuse assassine et Sur la route de Selma. Voilà. Sur ces bonnes paroles, c'est la fin de l'émission. C'est la fin de l'émission. Il faut pas mettre le musique de fond trop fort, sinon on m'entend pas parler. Donc, je vous rappelle les deux livres dont je vous ai parlé, enfin les deux œuvres dont je vous ai parlé. La première, c'est Contre Amazon de Jorge Carrion, qui jette un petit pavé dans la mare pour essayer de faire réagir autour du monopole d'Amazon autour des livres. Le second, c'est la série de BD Soda par Tom et, on va dire, Gazzotti, parce que c'est lui qui a dessiné le plus de tomes de cette série, même s'il y en a d'autres. Le premier, c'est Au Nouvel Attila, le second, c'est Chez Dupuis. Nous, on se retrouve dans deux semaines sur cette même antenne. La semaine prochaine, ce sera Radio Gaga, avec leur groupe de musique invité. Je crois que je serai avec mes collègues pour vous, Vincent et Linda, pour vous parler de manga. En attendant, je vous souhaite une bonne soirée, tout à l'heure comme à la radio audio. Et puis sur ce, à bientôt.